Une ex-faculté dentaire, temple du graffiti, un ancien arsenal militaire transformé en salle d'exposition d'art contemporain, ou bien un vieux lavoir abandonné convoité par les amateurs de guinguettes, dans la construction de la ville aussi, nous pouvons dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est encore plus vrai à l'ère et à l'heure du numérique. Fab Lab, Hackerspace, espace de coworking, les anglicismes sont aussi fréquents que le développement de ces nouveaux lieux est déroutant. Des lieux dans lesquels se croisent les disciplines et s'expriment les pratiques. Désormais, des ingénieurs informatiques font bureau commun avec des plasticiens ou bien des architectes côtoient des passionnés de jeux vidéo. De quoi bousculer, voire révolutionner de vieilles habitudes en matière de fabrication urbaine et de création. Un bouillonnement qui nous ferait presque penser que l'instabilité devient la norme. Pour son 40e et ultime numéro, Place Publique remélange les cartes, complexifie la partie et nous oblige, en s'appuyant sur ce qu'il se passe maintenant et comme la revue l'a toujours fait, à regarder loin devant. Création, quand les lieux génèrent de nouvelles pratiques, c'est tout de suite dans Chercheurs en Ville.
Chercheurs en Ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec Place Publique, la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne et la Radio Université Bretagne Noire.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Chercheurs en Ville. Notre invitée du mois est Flavie Ferchaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante et enseignante à Rennes 2, doctorante et chercheuse au sein du laboratoire Espace et Société. Vous avez également contribué au dernier numéro de Place Publique et vous serez interrogé comme chaque mois par le rédacteur en chef de la revue, Xavier de Bontride. Bonjour Xavier.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Et Christian Lebar, directeur de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Renan.
Xavier, c'est à vous.
Merci Renan. Effectivement, c'est un vrai plaisir que d'accueillir Flavie Ferchaud à ce micro pour revenir sur le dernier numéro de Place Publique et plus particulièrement sur son dossier, vous l'avez dit, consacré aux lieux de création. Alors, on a cherché à aller voir qui est-ce qui était nouveau dans la manière de créer, de faire de la création artistique contemporaine et en s'intéressant plus particulièrement aux lieux. Les lieux, c'est ça, là où ça se passe. Ce sont des adresses qui sont plus ou moins connues. Et vous, Flavie, vous êtes allée à la rencontre de tiers-lieux numériques puisque c'est le sujet de votre thèse. Vous êtes en train de travailler de manière très précise sur ces nouveaux endroits où se croisent, comme l'a rappelé à l'instant Renan, des pratiques, des dimensions numérique, de la fabrication, mais aussi des savoirs. Et votre article m'a beaucoup intéressé dans la mesure où justement il nous a permis de voyager. Vous êtes allé voir ce qui se passait à Rennes, vous êtes allé aussi à Toulouse et même en Belgique, à Gand. Et on va s'apercevoir, et ça sera l'objet de notre entretien à ce micro, que eh bien, selon les endroits, selon les lieux, selon les villes, on ne pratique pas toujours de la même manière. Mais avant de commencer, peut-être un élément de définition pour que l'on comprenne bien de quoi nous parlons. Les tiers-lieux numériques, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça recouvre selon vous?
Alors peut-être pour commencer, moi j'utilise pas vraiment la notion de tiers-lieu qui veut un peu dire beaucoup de choses et peut-être un peu trop à tel point qu'on se perd un peu dans cette notion-là de tiers-lieu.
Comment dites-vous alors?
Moi je dis les lieux dédiés aux technologies numériques, à la fabrication et à l'expérimentation.
Mais c'est chaque plus long. Mot compte, hein. Voilà. Vous avez dit fabrication, expérimentation, il en manque un.
Des lieux dédiés aux technologies numériques, à la fabrication et l'expérimentation.
Voilà. Et ça veut dire qu'il se passe au même endroit plusieurs phases. On fabrique, mais aussi on teste, on met en mouvement, on confronte. C'est ça que vous observez?
Oui, complètement. Et souvent, on teste en même temps qu'on fabrique, et etc. Donc, on n'est pas seulement sur les espaces de coworking. Même moi, dans ma thèse, pas du tout, mais vraiment sur des espaces où on fabrique des choses, où on utilise, on met en œuvre des méthodes itératives, de prototypage, de test, etc. Et donc d'apprentissage aussi par le faire.
Puis-je vous demander ce qui vous a conduit à vous intéresser à cette problématique en tant que chercheur? C'est la dimension numérique, c'est le côté un petit peu universel de la pratique? Qu'est-ce qui vous motive?
Au départ, moi, quand j'ai commencé ma thèse, je voulais travailler sur les outils numériques et la participation des jeunes dans le champ de l'aménagement urbain. Au bout de quelques mois de lecture, d'un état de la littérature aussi, j'ai réalisé que cette question-là des outils numériques, elle était déjà largement abordée par la littérature. Et par contre, qu'on observait l'émergence de lieux nouveaux, dédiés aux technologies numériques, où on pouvait observer des nouvelles formes de participation. Et donc, j'ai commencé à aller sur le terrain avec cette idée-là, en essayant de voir si dans ces lieux-là, alors qu'ils ne sont pas spécifiquement portés sur la question urbaine et la question de l'aménagement, et ben on pouvait observer des nouvelles formes de participation citoyenne.
Alors, on a titré votre article justement sur la place de ces endroits, de ces tiers-lieux dans la fabrique urbaine. Comment ils prennent place dans la fabrique urbaine? Parce qu'on sent bien que c'est une nouvelle manière de faire la ville hein, qui est en train de se mettre en place. C'est ce que vous avez observé. Parce que ce qui m'a intéressé dans votre démarche, c'est que ce n'était pas uniquement une réflexion purement théorique, vous allez confronter justement la théorie avec la pratique sur le terrain. Vous allez faire des enquêtes en ville. C'est comme ça que vous travaillez.
Oui, c'est ça. Mais c'est un peu à la base de toute recherche. Il y a bien sûr des apports théoriques, mais aussi toujours une accroche au terrain. Et donc, j'ai eu une phase assez longue de lecture et d'appropriation du sujet. Et ensuite, l'année dernière, j'ai fait un petit tour de France des lieux de fabrication et d'expérimentation numérique. Donc, je me suis rendue dans plusieurs villes. À chaque fois, je poussais la porte de ces lieux-là en faisant des entretiens avec les acteurs. J'ai aussi fait des entretiens avec les institutions, les collectivités, pour voir comment est-ce que ces lieux sont abordés. Et puis là, j'ai choisi d'opter pour une comparaison entre trois villes, Rennes, Toulouse donc et Gand en Belgique, pour aller un peu plus loin dans la compréhension de ces lieux-là. Et donc oui, j'ai une approche assez ethnographique, j'essaie de passer du temps dans chacun de ces lieux.
Initialement défini par Ray Oldenburg, professeur de sociologie urbaine, le concept de tiers-lieu désigne des lieux distincts du lieu d'habitation et du lieu de travail habituel. C'est-à-dire que les individus qui les fréquentent n'ont pas obligation de s'y rendre. Et lorsqu'ils s'y trouvent, ils sont détachés des systèmes de normes de leur vie privée ou professionnelle.
J'aimerais que, Christian Lebart, vous rentriez dans notre débat, puisque vous connaissez bien Flavie Ferchaud, vous êtes encore son directeur de thèse, je crois, on va tout dire au micro de Canal B aujourd'hui. Et surtout, cette pratique-là, ce passage, cette alternance entre la théorie et la pratique, c'est la recherche d'aujourd'hui. Notre émission, c'est Chercheurs en ville. Là, on a un exemple parfait de la manière dont on peut faire cette recherche.
Oui, on a surtout un exemple d'une thèse très courageuse, parce que on est sur... quand on fait une thèse, la première chose qu'on se demande, c'est sur quoi je travaille. La fameuse question du sur quoi, de l'objet. Or là, on est typiquement sur des objets incroyablement difficiles à saisir, pour lesquels il n'y a pas de vocabulaire consacré, comme
l'instant.
La rappeler l'échange que vous venez d'engager tout à l'heure. On est sur des pratiques qui sont sujettes à des effets de label très forts, des effets symboliques très 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 lourds. On bute tout de suite sur la question de l'attractivité, de l'image. Voilà, il y a toute cette thématique-là qui sature un petit peu ce type d'objet. Et puis quand on essaie de refroidir les choses, c'est-à-dire que quand on pousse la porte pour voir ce qui se fait concrètement et qui y a derrière, on se rend compte que c'est incroyablement disparate, incroyablement multiple, avec quand même, je crois au fond, une sorte de dénominateur commun, et c'est peut-être ma question, qui est un dénominateur commun presque en négatif ou en creux, c'est-à-dire on est à l'écart, ce que suggère assez bien l'expression tiers-lieu, on est à l'écart de ce qui se fait normalement. Alors on est à l'écart probablement parce qu'on est sur de l'innovation numérique, mais peut-être pas seulement. C'est-à-dire que la question ce serait comment est-ce que ces lieux se positionnent par rapport aux dispositifs classiques d'action publique, de comment encourager les créations d'emplois, le dynamisme culturel, etc. Donc quel est le statut de ces lieux-là en termes privé-public par exemple?
Flavie Ferchaud va vous répondre, et à nous aussi du même coup. On vous écoute.
Ils se positionnent différemment en fait sur ce plan-là. Il y a des lieux qui émergent suite à des politiques publiques. Et donc par exemple, il y a eu un appel à projet de l'État en 2013, un appel à projet Fab Lab, qui a conduit à l'émergence de nombreux lieux, même si seulement 14 lieux ont vraiment été lauréats de cet appel à projet. Il y a aussi des lieux qui émergent complètement en marge de l'action publique, sans lien avec ces politiques publiques-là. Et donc, on a des statuts différents. Il y a aussi des lieux qui se développent dans les écoles, dans les entreprises. C'est quelque chose d'assez généralisé, mais en France, fortement soit impulsé, soit soutenu par les politiques publiques.
Si on revient justement à la situation rennaise que vous connaissez bien, vous êtes d'ailleurs en train de faire votre thèse en partenariat, je crois, avec dans le cadre d'un dispositif spécifique avec Rennes Métropole. On a l'impression que les choses sont un peu cadrées quand même ici. Il y a des lieux qui sont bien identifiés. La collectivité s'est un petit peu emparée du sujet pour l'organiser. Je me trompe pas en disant ça ?
Non.
Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'effectivement on met des moyens, ouais. La puissance publique accorde, la collectivité accorde des moyens matériels ou financiers pour aider à la structuration de ces initiatives?
Ouais, alors surtout au démarrage donc d'un des lieux, donc un laboratoire de fabrication numérique qu'on appelle Fab Lab, qui a émergé il y a quelques années, d'abord à l'école des Beaux-Arts et qui a été fortement et qui est toujours hein, fortement soutenu par Rennes Métropole et la ville de Rennes, donc tant en moyens humains qu'en moyens financiers, mais pas seulement. Le Fab Lab de Rennes, c'est un consortium entre plusieurs institutions publiques, des écoles, etc. Mais c'est un positionnement qui a été très fort au début, qui l'est peut-être un peu moins maintenant, dans un contexte aussi de restrictions budgétaires, et aussi dans un contexte où l'institution est en demande vis-à-vis de ce lieu concernant la recherche d'un modèle économique.
Alors justement, vous prononcez le mot que tout le monde évoque quand on s'intéresse à ces questions, le modèle économique. Est-ce que d'abord il y en a un? Est-ce qu'il faut qu'il y en ait un? Est-ce qu'il y a une forme de rentabilité ou de positionnement dans l'économie réelle de ces lieux et de ces acteurs?
Plus brutalement encore, sa vie commence, ces affaires-là.
Voilà, on peut le dire comme ça aussi.
Ça dépend des villes en fait. Parce que donc à Rennes, le lieu a été fortement soutenu par la collectivité. Et c'est vrai que la recherche du modèle économique s'est faite, mais c'est compliqué. Ça démarre, c'est à partir de cette année, du mois de février, que le Fab Lab de la Maison des Associations...
Ils font payer maintenant, c'est ça.
Voilà, propose des prestations payantes, donc sur abonnement, mais pas tous les jours. Donc je crois que c'est le mercredi et le samedi, ça reste gratuit pour les gens qui veulent découvrir. Donc à Rennes, la recherche du modèle économique, pour l'instant, elle n'est pas encore aboutie pour ce qui est pour ce qui concerne le Fab Lab.
Il y a des modèles plus avancés, vous en avez rencontré ?
Il y a des modèles plus, je ne sais pas si on peut dire plus avancés, mais en tout cas plus...
différents.
Différents. C'est le cas à Toulouse. Donc à Toulouse, c'est le premier Fab Lab s'est créé là-bas en 2008. Il a démarré un peu sous une forme... très associative, avec une petite communauté dans une cave, etc. Et puis petit à petit, la ville leur a mis à disposition du Fab Lab des locaux pas très loin du centre-ville de Toulouse, des locaux importants qui partagent avec un espace de coworking. Et petit à petit, le Fab Lab a développé son modèle économique à partir des cotisations auprès de l'association.
Et puis des prestations aussi avec leur écosystème d'entreprises locales, je crois.
Oui, en fait, aux côtés de l'association, le Fab Lab de Toulouse a créé une entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, ils proposent des prestations, des workshops. Ils ont ouvert un lieu avec des machines spécialement dédiées aux entreprises, aux acteurs privés. Mais c'est une entreprise qui existe à côté de l'association du Fab Lab. Donc, il y a des liens avec l'association, mais les choses sont quand même assez séparées. C'est un modèle assez nouveau, je crois.
Qui pourrait faire école ailleurs, enfin, qu'on observe petit peu comme une référence.
Oui, sûrement, mais c'est compliqué pour les Fab Labs. Il n'y a pas un seul modèle, ça dépend vraiment des contextes, de l'écosystème local, territorial dans lequel ils s'insèrent, et il n'y a pas une recette qui fonctionnerait dans tous les territoires. Quoi.
Christian Lebart.
Oui, on voit bien comment s'opère la diffusion du modèle, parce que si je comprends bien, les premiers Fab Labs étaient selon une logique bottom-up, c'est-à-dire voilà, ça venait d'en bas, et puis... presque sur un mode militant, au fond, des gens qui probablement trouvaient pas leur place dans les institutions disponibles à l'époque, on dit, nous, on va créer, et vraiment la dimension de création me semble très importante, on va créer une espèce de truc un peu quasiment utopique. Et puis, on voit bien que, à mesure que la preuve est administrée que ça marche, eh bien, d'autres territoires s'en emparent, mais sur une logique qui est beaucoup plus top-down. C'est-à-dire, au fond, il y a des élus qui disent, mais nous, on n'a pas ça, donc...
Comment faut-il faire pour en avoir un aussi?
Fait-on pour monter dans ce train qui arrive quelque part?
Oui, complètement. Il y a même le fait de la création du Fab Lab était parfois dans certains programmes municipaux lors des élections, enfin, avec une approche très descendante, une approche aussi critiquée par les Fab Labs, les pionniers peut-être un peu en France, pour qui du coup serait l'effet de déconnecter un peu le lieu de la communauté. Et c'est important. Après, il y a d'autres lieux qui émergent plus en marge de l'action publique, comme les hackerspaces, où là, les valeurs militantes sont peut-être encore plus forte.
Pour peut-être donner une définition, même si je suis certain que tous les auditeurs de Canal B connaissent et sont peut-être eux-mêmes des hackers.
Bien sûr.
Alors, c'est quoi le hackerspace ?
Un hackerspace, c'est un lieu qui, c'est un type de lieu qui a émergé dès les années 90 à la suite du Chaos Computer Club à Berlin. Donc, c'est un groupe de personnes plutôt.
Des bidouilleurs, des informaticiens, c'est ça.
Informaticiens,
codeurs.
Ouais, voilà. Qui se réunissent dans des espaces, donc qui partagent des intérêts communs. Ils se réunissent pour.
C'est plutôt clandestin, enfin, on fait pas trop de publicité, c'est entre initiés. On se refile
des
adresses un peu sous le manteau.
Mais c'est plutôt.
Sous le manteau.
C'est pas vraiment sous le manteau, mais c'est vrai qu'ils rechignent un peu à être vraiment visibles. Et je suis pas sûre qu'ils soient très contents, même que je parle, moi, de des hackerspace à la radio et que je raconte ce qu'ils font. Ils sont un peu, ils ont un rapport un peu ambigu avec.
Rassurez-nous, ils sont pas violents quand même. Ils vont
non,
pas vous menacer à la sortie du studio. Bon.
Non. Moi, j'ai des rapports super enrichissants avec eux. Il y a aucun souci là-dessus, mais ils ont un rapport un peu ambigu avec cette idée de. Ben, il y a besoin aujourd'hui de parler du partage des données, de la transparence, de la surveillance. C'est toutes ces questions aussi dont ils souhaitent parler dans les hackerspace. Donc, il y a besoin de parler de ça. Et puis, en même temps, c'est des lieux qui souhaitent aussi peut-être rester un peu plus en marge que les Fab Labs, par exemple.
Ce qui est passionnant, c'est qu'à un moment, vous évoquez dans l'article, vous évoquez carrément l'idéologie punk. Et comment est-ce que...
Que Christian Lebar t'a bien connu.
Bien évidemment, comme tous les gens de ma génération. Et à mesure que les choses avancent, voilà, on va jusqu'au point d'ultime, qui est l'hyper-institutionnalisation sous la forme la plus conformiste, la plus institutionnelle, c'est pas une critique, hein, mais la plus prévisible, disons, d'action publique. Voilà. Et donc, du coup, j'imagine que... Voilà, les acteurs qui vivent ça.
Ça s'appelle de la récup, ça.
Oui, on a des choses assez semblables dans le monde de la culture ou dans les mondes créatifs d'une façon générale. Les gens qui vivent ça, ils sont quand même un petit peu pris dans un mouvement qui peut être un peu agité. Et donc j'imagine que à l'intérieur de ces univers sociaux où on est à la fois féru d'informatique, de numérique, mais en même temps un peu anard, un peu anti-institutionnel, peut-être un peu militant aussi. Voilà, le passage à l'institution, ou en tout cas... alors c'est aussi le passage au capitalisme, parce que il y a aussi...
La recherche du modèle économique dont nous parlions.
Le rapport au marché, quoi.
Comment ça se passe, justement, Flavie Ferchaud? Est-ce que vous avez observé des itinéraires de hackers ou d'acteurs de ces lieux numériques qui, finalement, soit se sont coulés dans le moule, ou au contraire, on dit, bah non, finalement, nous, on veut pas de ces règles-là, on reste totalement dans une forme de marginalité active. Vous avez observé des itinéraires comme ça? Vous pouvez nous en parler?
Oui, complètement. C'est des tensions qu'on retrouve vraiment dans les lieux que j'enquête. Avec les hackerspace, on reste vraiment en marge de l'action publique. Et d'une part, ils sont assez peu repérés finalement par les institutions, ces lieux-là, par rapport aux Fab Labs. Eux, ils restent en marge, ils souhaitent rester indépendants vis-à-vis des institutions.
Donc ça veut dire pas de subventions, pas de locaux mis à disposition à titre gratuit, des choses comme ça.
Oui, voilà. Alors sur les locaux, ça dépend un peu, mais ouais. Par exemple, le hackerspace à Rennes est situé à Les Labos, donc ou avec un rapport assez compliqué avec la ville, justement, en termes de locaux. Mais ça dépend des lieux. Mais il y a vraiment cette idée d'autogestion et de surtout pas être instrumenté par l'action publique. Du côté des Fab Labs, la tension, elle s'exprime diversement. Certains rentrent dans le moule, d'autres résistent un peu. Et je pense qu'à Rennes, de mon point de vue, il y a aussi une forme de résistance à ça sur le plan du modèle économique, avec des acteurs au Fab Lab qui se sont battus pour que le lieu reste le plus accessible possible, et notamment sur le point de vue des contributions financières. Solution aux problèmes des jeunes.
Alors, vous avez étudié, vous nous l'avez rappelé, des situations locales en France, mais votre travail vous a également conduit à franchir la frontière pour aller en Belgique, à Gand. Et là, ce que vous avez découvert ou observé n'est pas tout à fait... Alors, il y a évidemment des lignes de force comparables, mais il y a aussi des singularités qui tiennent à la culture nationale de la ville aussi. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors à Gand, c'est intéressant. C'est intéressant surtout du point de vue des instruments de l'action publique qui sont, concernant les Fab Labs, assez forts en France, où on a vraiment des politiques publiques d'appui, de soutien au développement de ces lieux-là. À Gand, la ville laisse plus faire. Elle suit, elle observe... Elle sait ce qui se passe sur le territoire, mais sans, j'ai l'impression que l'approche est plus ascendante du fait qu'il n'y ait pas ces appels à projets, qu'il n'y ait pas le soutien de la ville et que la ville a un rapport peut-être un peu plus différent avec les associations.
Et alors, ça produit quel résultat ? Est-ce que vous avez pu mesurer ce qui se passe d'une part dans les Fab Labs de Rennes et de Toulouse et puis dans ceux de Gand ? Est-ce que finalement, quel que soit l'environnement, ça produit à peu près la même chose ? Ou est-ce que, compte tenu justement de cet accompagnement différent, il y a des résultats qui sont eux aussi différenciés ?
Concernant les hackerspaces, on est un peu dans la même configuration. C'est des lieux qui sont en dehors de l'action publique et qui le reste, qui est instrumentation ou pas. Sur les Fab Labs, c'est différent. Il y a des lieux à Gand. En fait, moi, pour appuyer un peu la comparaison, je compare deux mêmes types de projets qui existent à Rennes et à Gand. Donc à Rennes et à Gand, il y a un projet qui s'appelle les capteurs citoyens. Donc l'idée, c'est de...
C'est pour la qualité de l'air, ça, non ? C'est pas ça ?
Dans ce cas-là, dans les deux cas, c'est pour la qualité de l'air, mais ça peut aussi être pour d'autres données.
Vous nous expliquez rapidement comment ça fonctionne ?
Données urbaines, ouais. Alors, le principe, c'est qu'on puisse fabriquer des kits de captation de données, donc là, en l'occurrence, de pollution de l'air, et que les citoyens soient acteurs de la captation de ces données, mais aussi de la visualisation et de ce qu'on partage.
Donc, je récupère mes données, j'ai un petit logiciel ou un site, une appli qui me permet de les verser et ça donne, ça transmet, ça agrège les données et ça donne du sens.
Voilà.
C'est ça l'idée.
Voilà, c'est ça l'idée. À Rennes, l'institution et en l'occurrence la ville de Rennes est assez présente dans ce projet-là. C'est un projet qui est depuis 3 ans dans les cartons, qui a un peu de mal à démarrer et là, qui va démarrer suite au développement de capteurs par des entreprises privées. Donc en partenariat avec le LabFab. Donc on a un mix d'acteurs publics, acteurs privés, le LabFab, et puis finalement le rôle du citoyen, on ne sait pas trop, et en tout cas il ne sera pas dans la fabrication des kits.
Ce qui est un peu dommage quand même par rapport à l'idée de départ.
En fait, c'est un projet qui existe dans plusieurs villes et à chaque fois qui est adapté un peu différemment selon les configurations locales. Donc c'est ça aussi qui est intéressant.
Et à Gand, alors ça se passe pas de la même manière.
À Gand, la comparaison est assez flagrante. À Gand, donc il y a un lieu qui s'appelle Time Lab où les gens peuvent venir faire des projets individuels, mais aussi qui font émerger des thématiques collectives. Et donc un groupe de membres du Fab Lab de Gand s'est emparé de ce sujet-là. Et eux, ça fait 2 ans qu'ils travaillent donc sur la fabrication de ce kit, et là qui est bientôt terminé et qui va pouvoir être utilisé par les citoyens. C'est une approche du coup qui est plus ascendante, où l'institution est assez peu présente dans ce projet-là. Ils suivent, ils savent que ce projet existe. Au début, ils ont même eu une réaction un peu négative parce que les villes n'ont pas forcément intérêt à ce que les données concernant la pollution de l'air soient partagées. Mais ils soutiennent pas, mais ils suivent.
Mais ils permettent.
Ils permettent, voilà.
Alors cette question de la gouvernance, elle est au cœur de votre réflexion aussi, Christian Lebart, hein, je le sais. Vous avez certainement des questions là-dessus.
Oui, parce que d'ailleurs Flavie, vous avez ouvert un peu là-dessus au début. Il y a une dimension d'utopie politique aussi dans cette affaire, avec la perspective d'une démocratie plus ouverte aux initiatives citoyennes, etc. Et puis en même temps, en écoutant l'échange avec Xavier, je trouve qu'on est hyper élitiste, c'est-à-dire on est très très clairement sur des minorités actives, mais quand même très 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 minoritaires, de gens qui sont à la fois techniquement très 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 pointus, et puis que je pressens quand même très très enfermés dans des centres d'intérêt très spécifiques. Alors où en est l'utopie un peu de faire la ville autrement, de bousculer les routines de gouvernance?
Elle est quand même toujours un peu là.
Oui.
Elle est quand même toujours un peu là, d'abord parce que ce sont des lieux qui sont pluridisciplinaires. Donc oui, il y a la place du technique est importante, elle est forte, celle du numérique, de l'informatique aussi, mais c'est aussi des lieux où, finalement, c'est aussi des ateliers de bricolage un peu classiques où on trouve des outils que tout le monde peut avoir dans son garage et pas que. Et l'intérêt, c'est ce mélange avec les machines, les outils de bricolage un peu classiques et les machines un peu plus innovantes qui, du coup, contribuent à ouvrir un peu ces lieux-là. Mais je suis d'accord, c'est vrai que ça reste des lieux qui sont d'abord fréquentés par les communautés créatives, des gens plutôt trentenaires, plutôt qui ont des diplômes, voilà, qui sont bien insérés dans la société. Ça vaut pour les Fab Labs, pour les Hackerspace. J'ai l'impression qu'on a un autre type quand même de personnes, toujours diplômées. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui fréquentent les Hackerspace. Mais là, les idées politiques, la place du politique est plus forte. Et donc, on a d'autres types de personnes. Il y a beaucoup moins de designers, de graphistes, d'architectes dans les hackerspace. On est sur des profils plus techniques et plus politiques. Mais là encore, ça vaut pour le cas de la France. Et là, je reviens tout juste de Belgique. Et on a eu beaucoup d'échanges sur la place du politique dans le hackerspace de Belgique, de Gand, où ils organisaient un festival ce week-end. Et eux, ils se définissent comme étant apolitiques. Pour eux, le fait de fonctionner en autogestion, c'est pas un acte politique. Et ils le justifient en disant, en Belgique, le politique est tellement important et crée des tensions entre la Flandre, la Wallonie, etc. Et ben, nous, on est un lieu en dehors de tout ça. Et par exemple, dans les échanges sur les mailing lists à Gand, les échanges se font en anglais. Et celui qui parle flamand se fait a plutôt intérêt à parler anglais que flamand. Donc c'est comme si c'était des lieux un peu en dehors. Donc du coup, avec des différences de contexte aussi sur ce plan-là.
Vous venez de parler de classe créative. On va revenir dans la seconde partie de cette émission justement sur ce que peut produire très concrètement en termes de création. C'était le sujet du dossier du dernier numéro de Place Publique. Ces lieux un petit peu alternatifs. Mais tout de suite, on va faire une petite pause musicale en compagnie de Patrick Watson. Places You Will Go.
To the top of the waterfall, into the waves of the sugar love. She's gonna drive you to the shore, but you don't know who you are. But take the guitar, you're gonna take. Too many roads, you're not gonna know where I'm at. Just follow all the pretty lights. Get lost until it feels right. This is where you're going. This is
Patrick Watson avec Places You Will Go. Vous êtes toujours à l'écoute de Chercheurs en Ville. Ce mois-ci, nous nous intéressons au dossier de place publique, un numéro qui fait la part belle aux lieux d'innovation et de création qui croisent les disciplines. Mais au fait, que se cache-t-il derrière les portes de ces espaces parfois en marge de la ville tant leur fonctionnement est déroutant ? Eh bien, réponse tout de suite avec notre invitée Flavie Ferchaud, doctorante à Rennes 2 au sein du laboratoire Espace et Société. Elle répond aux questions de Christian Lebar et Xavier Debontride. À vous, Xavier.
Flavie Ferchaud, on va poursuivre avec vous cette découverte des lieux numériques qui contribuent aussi, qui concourent à la fabrication de la ville dans tout ce qu'elle peut avoir d'émergent, de disruptif. Alors, mais on a envie de savoir qu'est-ce qu'on y trouve finalement dans ces fameux Fab Labs, Hackerspace dont vous nous avez parlé. Quand on pousse la porte, qu'est-ce qu'on voit ? Puisque c'est ce que vous avez fait à Rennes, à Toulouse et à Gand.
Bon, d'abord, on voit des gens.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Yeah. Voilà, on voit des gens, on voit des machines.
Donc, quel type ? Les imprimantes 3D, par exemple ?
Oui, il y a des imprimantes 3D, mais pas que. Il y a aussi des machines qui s'appellent les découpes laser. Découpes laser. Où, en fait, par exemple, avec les découpes laser, on peut découper dans des planches de bois des pièces qu'on a dessinées de manière informatique. Donc à partir de fichiers numériques, donc c'est un peu avec les imprimantes 3D, on a un fichier numérique en 3D et on le passe dans la machine.
C'est l'atelier du 21e siècle finalement. On est dans une espèce d'échoppe d'artisans qui fabrique des pièces, des produits, mais avec du numérique.
Oui, mais pas que. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi beaucoup d'outils de bricolage classiques. Il y a des perceuses, il y a des scies, il y a des clous, il y a des marteaux. Et même si on découpe sa chaise dans des planches de bois sur la découpe laser, au bout d'un moment, il faut bien l'assembler. Et là, on retrouve des vis, etc. Quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est que...
C'est pas de la production en série.
Non, c'est pas la production en série. On est bien là sur des... C'est pas dans certains articles, dans les médias, on a pu trouver comme quoi c'était la nouvelle usine du 21e siècle. Non, on est dans des lieux de prototypage. Donc les gens viennent tester un modèle, un produit éventuellement, mais ça n'a pas vocation à être industrialisé.
Lieu de prototypage, mais peut-être aussi lieu de réparation. Est-ce qu'il ne serait pas possible demain, plutôt que de balancer le produit qui ne fonctionne plus, de réparer la pièce défaillante et de lutter ainsi contre la fameuse obsolescence programmée qui nous vaut tant de gâchis et de gaspillage ? C'est pas une des idées aussi qui est sous-jacente de ces lieux-là ?
Si, si, c'est une idée même qui est assez forte hein, sur ce plan-là.
Ça marche ?
Ça marche, oui et non, en fait. Ça marche, oui, et je pense notamment, par exemple, au Hackerspace. Quand on pousse la porte du Hackerspace, la première chose qu'on voit, c'est des montagnes d'ordinateurs et de tours d'ordinateurs qui récupèrent et, pour certains, qui réparent et qui proposent aussi aux habitants de les labos. Donc, il y a vraiment cette idée-là de réparation. Au Fab Lab aussi, mais c'est quelque chose qui se vend beaucoup dans les médias, l'idée que les
Fab Labs... C'est une question de journaliste, hein, excusez-moi.
C'est une question de journaliste, ouais. Et pourtant, ça produit aussi énormément de déchets. les Fab Labs, quand on voit l'impression 3D, il y a beaucoup de ratés. Ça produit énormément de déchets, c'est des machines qui consomment énormément d'énergie. Et
on vous sent un peu critique là tout d'un coup. C'est pas le monde si rêvé que cela en réalité. Il y a aussi un peu une face obscure du Fab Lab.
Oui, bah, je ne sais pas si c'est une face obscure, mais en tous les cas, c'est sûr qu'il y a cette idée de lutte contre l'obsolescence programmée, que pour certains projets, on est complètement là-dedans, pour d'autres, on l'est beaucoup moins. C'est aussi des lieux où on crée des nouvelles choses. Il y a l'impression 3D, par exemple, pour imprimer des petites figurines. Avant d'imprimer sa figurine parfaitement, il y a au moins 3 essais ratés qui finissent à la poubelle.
Ça, c'est les gens qui font des jeux de rôle, hein, c'est ça, avec sur les petites figurines, non, c'est pas ça?
Oui, ça peut. Mais ouais. Pas forcément. On peut imprimer un vase, on peut imprimer des bijoux. Il y a des gens qui font toutes sortes de choses avec l'imprimante 3D.
Alors, est-ce qu'il y a justement, et après je passe la parole, je sens qu'il piaffe à mes côtés à Christian Lebart qui a des questions à vous poser, mais juste pour rebondir sur votre propos, la créativité qu'on trouve dans le numérique, est-ce qu'elle se traduit aussi par des objets artistiques ou des mouvements artistiques? Est-ce qu'on peut faire le lien? C'est un peu ce qu'on a tenté de faire, nous, dans notre dossier de place publique, là, sur les lieux de création. Mais est-ce que avec les Fab Labs, on trouve aussi cette dimension-là artistique?
Oui, il y a au fur et à mesure de mes enquêtes, je croise de plus en plus d'artistes qui fréquentent ces lieux-là. Ils fréquentent ces lieux-là pour prendre des conseils sur leurs projets, où il y a souvent une part importante du numérique, donc l'art numérique. Et du coup, ils ont parfois besoin d'appui sur le plan technologique. On trouve des artistes aussi pour utiliser les machines, donc l'impression 3D, mais aussi la découpe laser. Je pense à Rennes, il y a le projet d'une artiste à partir de bâtiments qui sont démolis. Et en fait, pour garder la trace de ces bâtiments, elle utilise l'imprimante 3D. Et donc ça donne lieu à des sculptures réalisées en imprimante 3D avec des bâtiments qui sont...
À l'échelle, bien sûr.
Non, qui sont pas. On est vraiment dans une œuvre artistique. C'est des bâtiments qui sont pas à l'échelle, mais l'idée c'est de garder trace de ces bâtiments qui sont démolis et qu'on ne voit plus. Et puis en même temps, la structure elle est fragile, c'est tout déformé avec les filaments de l'impression 3D. Enfin voilà, il y a des projets artistiques comme ça. Il y en a d'autres. Il y a des installations aussi à partir de la lumière. Il y a des robots un peu particuliers qui émergent. Enfin, il y a tout un tas de projets, d'artistes, d'artisans aussi dans ces lieux-là. À Toulouse, il y a peut-être un lien un peu plus fort parce que le Hackerspace est situé dans un lieu où qui est fréquenté par un collectif d'artistes. Et donc, il y a beaucoup de liens avec des gens qui font de la sérigraphie, d'autres qui font des sculptures, des installations artistiques, etc. Et là, le Hackerspace est là... à la fois en appui pour concevoir et puis pour fabriquer ces sculptures.
On est vraiment là au croisement, hein, à la fois de discipline, d'envie et puis aussi de création. C'est vraiment un fil rouge.
Le principe de l'impression 3D est simple sur le papier. C'est que le papier, justement, il n'y en a pas. On le remplace par un filament en plastique qui va servir à modéliser les objets. Si, vous allez comprendre. Bon, là, Ulysse, il est un peu comme une poule devant un couteau ou comme n'importe qui devant une imprimante 3D. Il ne sait pas par où commencer.
Christian Lebart, une question.
Oui, alors toujours pour essayer de mieux comprendre comment ça se passe quand on ouvre la porte, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'opposition entre la dimension individuelle et la dimension collective? Vous parlez de collectif d'artistes. On hésite entre plusieurs modèles en vous entendant, c'est-à-dire le modèle d'une sorte de libre-service où chacun viendrait y faire ce qu'il a envie d'y faire avec des arrière-pensées un peu personnelles, c'est-à-dire d'auto-entrepreneurs ou d'artistes, créateurs, etc. Et puis vous évoquez aussi quand même des dimensions de projets collectifs. Alors quelle est la part de l'un et de l'autre?
C'est une question pas évidente.
C'est les questions de Christian. Les questions de Christian Lebart sont souvent comme ça, un peu compliquées. Mais vous allez pouvoir y répondre, je suis certain.
Moi, je vois quand même beaucoup de projets individuels. Ouais. Ça dépend des lieux, en fait. Et là encore, je reviens à Gand, au Time Lab. où il y a cette idée de projet individuel, donc où on paye un abonnement pour utiliser les machines, pour mener à bien son projet, qu'il soit d'ordre artistique ou autre. Mais à Timelab, ils mettent vraiment l'accent sur ces projets collectifs. Et donc le lieu, donc il y a des salariés, c'est une grosse association à Gand. Le lieu organise des workshops, des sessions de créativité pour faire émerger des thématiques collectives. Et les gens s'engagent dans des projets collectifs. Le groupe qui est constitué à partir de ces workshops sur une thématique s'organise par lui-même, mais il est accompagné par le lieu. Donc il y a des séances d'aide à la gestion du projet. C'est ponctuel en fait, les projets collectifs, je dirais. Pour l'instant, moi je vois quand même beaucoup de projets individuels. Là où je vois du collectif, c'est aussi dans l'organisation d'événements. C'est des lieux pour qui la dimension événementielle est importante, notamment pour les hackerspace. Et
à travers là, par exemple des festivals ou des
oui,
week-ends
de
rencontres, les fameux hackathons dont on parle souvent.
Oui, il y a les hackathons, mais là, par exemple, à Gand, donc je reviens du festival New Line, donc c'est le festival du White Space, le hackerspace de Gand. Les autres fois, quand j'allais à Gand, le jeudi soir à la permanence du hackerspace, il y avait quoi, entre 5 et 10 personnes dans le lieu. Ils travaillent sur leur ordi, ils parlent, ils boivent des bières, voilà. Pendant l'événement, il y a des conférences, il y a des workshops, il y a vraiment cette idée de,
ça s'est structuré
de
un
formation,
petit peu.
De partager la connaissance, mais ça se fait de manière ponctuelle pendant ce week-end-là. Ils ont préparé ce week-end-là pendant des mois. Et là, on a bien une forme d'organisation collective où le collectif est fort. Et il y a la même chose à Toulouse au mois de mai qui va réunir beaucoup de hackerspace aussi. Enfin, donc voilà, peut-être aussi plus sur cette dimension événementielle.
D'accord, mais bon, à vous entendre, ça reste quand même dans certaines limites. Alors, pour revenir à une formulation au tout début, en quoi est-ce que tout ça fait la ville ? Enfin, moi, j'ai du mal à voir le lien.
Sur la fabrique urbaine, c'est ça.
En quoi est-ce que ça participe de la fabrique de la ville ? Je trouve que c'est très cantonné, quand même.
Alors, est-ce qu'on peut avoir...
Ou est-ce
peut
que
avoir...
c'est juste un mot d'ordre ou un...
Une posture, vous voulez dire ?
Une posture ou un slogan pour attirer l'attention des pouvoirs publics, pour obtenir des financements, pour obtenir un label, avec derrière un chantage. Ah, nous sommes des créatifs, donc les emplois de demain, c'est nous. Est-ce que c'est pas simplement ça ? Mais je vois pas en quoi ça fait la ville, en me faisant un peu l'avocat du diable.
Comme toujours. La ville, vous avez...
C'est quand même un des enseignements de la thèse, c'est que le lien avec la ville, ça reste quand même pour beaucoup des lieux un peu isolés, fermés sur eux-mêmes. Le lien avec la ville, je le vois quand même à plusieurs titres. Un des premiers questionnements dans ma thèse, c'est comment ces lieux-là s'insèrent dans un système productif d'économie de la connaissance.
Ils sont dans l'air du temps. C'est moins qu'on puisse dire.
Ils sont dans l'air du temps, ils participent aussi au développement, à l'appui de start-up dans certains cas. Et c'est vraiment le cas à Toulouse où il y a un lien vraiment très étroit avec le Fab Lab, l'espace de coworking, et puis l'ensemble de tout l'écosystème toulousain réuni autour des entreprises, Toulouse Métropole, etc. Donc, premier niveau, celui de l'innovation, de l'inscription dans le territoire sur le plan de l'innovation. Deuxième niveau, concernant le lien à la ville, c'est quand même celui des productions. Donc, je vous ai parlé de productions peut-être un peu anecdotiques, telles que l'impression de
figurines
en 3D, c'est quand même pas... mais je vous ai aussi parlé du projet des capteurs citoyens, où là, on est vraiment dans le cas d'un projet avec un lien avec la ville, avec l'environnement qui est assez net. Il y a aussi des installations artistiques qui ont lieu sur l'espace public. Il y a des Fab Labs où il y a du mobilier qui est fabriqué sur l'espace public. Il y a plusieurs projets collectifs et individuels qui portent sur l'espace, sur la gestion de la ville. Par exemple, à Toulouse, il y a un projet de récupération des déchets sur la Garonne qui a émergé au Fab Lab de Toulouse. Ils ont construit le prototype au Fab Lab, ils vont aller le tester. Enfin, voilà, il y a des productions, ça reste ponctuel, c'est pas général, mais il y a des productions en lien avec la ville et qui participe de la fabrique urbaine.
Alors, et à Rennes, justement, à quoi faut-il s'attendre ? Est-ce que vous avez observé, est-ce que vous avez identifié des initiatives qui pourraient, alors qui sont peut-être encore un peu souterraines à l'heure où nous parlons, mais qui pourraient demain prendre place justement sur l'espace public et structurer ou contribuer, comme vous venez de le dire, à la fabrique de la ville ? Est-ce qu'il y a des initiatives là qui sont dans les tuyaux ?
Bah, y a le projet donc, de Captar Citoyen.
Ouais. Mais encore, parce que ensuite, celui-là, ça y est, on l'a bien identifié.
Il y a des projets individuels sûrement que moi je connais peut-être un peu moins. Il y a 2 ans une installation de vitrine interactive dans une rue près de la place Sainte-Anne. Et donc c'est des personnes du Fab Lab qui ont monté ce projet-là.
Le pont en Foulon, si ma mémoire est bonne.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc le principe, c'était qu'il fallait... On marchait sur des paillassons et ça...
Ça déclenchait,
voilà, ça déclenchait une animation dans les vitrines. Il y a peut-être, sinon aussi à Rennes, bon, c'est dans Rennes Métropole, à Bru, il y a un nouveau lieu qui s'appelle l'Etrilab, donc qui est lié à l'écodomaine de l'Étrier. Et eux qui se posent des questions peut-être plus en lien avec les questions environnementales, avec les questions de l'agriculture urbaine aussi. Et leur idée, c'est d'avoir un Fab Lab sur lequel les questions techniques seraient un peu... les aspects technologiques seraient un peu en retrait. Et par contre, on mettrait plus
l'usage.
En avant l'usage. Et puis la question de l'usage de la terre, mais vraiment au sens très concret du terme, de l'agriculture dans la ville... ils ont un projet de ruche aussi qu'ils pourraient fabriquer au Fab Lab. Enfin, voilà.
Ça se passe à Bru, hein, c'est ce que vous
ça
dites.
Ça se passe à Bru, ouais. Et il y a aussi d'autres projets, hein, et notamment il y a beaucoup de projets qui émergent dans le champ du jardinage, et avec des installations qui sont fabriquées dans les Fab Labs pour pouvoir jardiner à l'intérieur, dans son appartement. Et,
la nature en ville, hein, c'est une thématique dont on entend de plus en plus parler. Dans votre article, là, vous évoquez aussi, sans vraiment trop définir le terme, et je ne résiste pas au plaisir de vous demander de quoi il s'agit vraiment, une communauté, le biome, qui s'intéresse au biomimétisme, c'est ça ? De quoi s'agit-il ?
Oula, alors c'est pas moi qui vais définir ce qu'est le biomimétisme, mais oui, c'est vrai qu'eux ont une réflexion assez forte sur la nature. En fait, ce que j'ai compris du biomimétisme, l'idée c'est de s'inspirer du système naturel et des mécanismes qu'on observe dans la nature et de l'appliquer à des choses plus concrètes. Et donc par exemple, eux, ils ont plusieurs projets. Je crois qu'il y en a un où ils ont créé du latex à partir d'une plante. Mais ce qui est intéressant dans tous ces lieux aussi, et ce dont on n'a pas parlé, c'est l'idée de la documentation open source. C'est que ces projets-là, ils vous paraissent peut-être un peu anecdotiques, mais une des dimensions fortes, c'est qu'ils sont partagés par la communauté, donc en des lieux spécifiques sur Internet, donc que ce soit des wikis, des portfolios, des sites spécifiques pour partager le mode d'emploi du projet, et donc pour qu'ensuite ce projet-là, il fasse des petits, il soit peut-être un peu modifié, amendé, mais qui se diffuse aussi au sein de toutes ces communautés-là.
Et ceci en s'affranchissant justement des frontières, hein, on n'est pas forcément circonscrit à un territoire donné, urbain ou régional, on peut avoir évidemment des connexions bien plus larges que ça.
Ah oui, tout à fait.
L'activisme de réseau et la cyberdémocratie ont obtenu un nouveau soutien du gouvernement suédois. Gunilla Carlsson, ministre suédoise pour l'aide au développement, a ouvert la porte aux discussions sur la façon dont les technologies de l'information et de la communication peuvent être utilisées et mises au service de la liberté d'expression.
Afin d'être innovante dans mon domaine politique, je dois les écouter, apprendre d'eux et voir aussi comment nous pouvons avoir de bonnes et grandes idées.
Juste pour rebondir sur une chose que vous avez dite, sur le fait que c'était beaucoup des trentenaires, il me semble que la dimension d'âge ou de génération est un peu au cœur de notre sujet, forcément, puisqu'on parle du numérique. Alors, hypothèse comme ça, à demi sérieuse, mais est-ce que c'est pas aussi dans ce type de lieu que se fait le lien entre des institutions municipales? Enfin, on connaît la crise de la démocratie représentative, on sait toute la thématique de l'âge des élus, etc. Et est-ce que du coup, c'est pas aussi de cette façon-là que on peut aller chercher des générations et des publics qui sont un peu loin des débats citoyens, un peu loin de la démocratie représentative telle qu'elle est institutionnalisée?
On appelle ça comment déjà à Rennes, la fabrique citoyenne, c'est ça?
Par exemple, oui.
Oui, la fabrique citoyenne à Rennes. On observe aussi l'émergence de nouveaux dispositifs institutionnels qui visent à intégrer ces communautés-là, ces lieux-là aussi, dans des dispositifs de participation citoyenne. Et donc, par exemple, l'année dernière, j'ai enquêté un événement qui s'appelle Gare Remix, qui a été organisé par le Grand Lyon et la SNCF. Et Gare Remix, c'est un événement de 3 jours qui avait pour but le prototypage de services innovants dans le hall de la gare Saint-Paul et pour les clients du train. Entre guillemets, c'est vraiment la commande telle que l'avait énoncé la SNCF. Et parmi les participants, il y avait surtout des trentenaires, des personnes diplômées, il y avait beaucoup de designers, des informaticiens. Et puis autour de cet événement-là, il y avait aussi des coachs donc pour accompagner les participants. Et là, on retrouvait les 2 Fab Labs de la métropole lyonnaise. Il y avait un hacker qui était là, etc. Et donc pour moi, c'est aussi ces instruments-là.
C'est appelé à se développer, selon vous, cette démarche-là, esprit.
Ouais. Oui, il y a de plus en plus de collectivités qui utilisent les méthodes de ces lieux-là, et notamment les hackathons. On en a parlé tout à l'heure sans vraiment dire ce que c'est. Donc le hackathon, c'est à la base quelque chose qui est...
Avec un H aspiré, hein, vous le faites très bien.
Voilà. C'est quelque chose qui est initié par les hackers pour les hackers. Et donc c'est 3 jours de prototypage. À la base, l'idée, c'est surtout de prototyper des logiciels libres, mais ça émerge aussi en dehors du champ de l'informatique et des logiciels. Gare Remix, c'était un hackathon, mais appliqué à la gare Saint-Paul et à des services pour les clients du train.
Vous voyez des initiatives de ce type pouvoir se développer prochainement dans la métropole rennaise ?
Oui, à Rennes, il y a un dispositif qui s'appelle Maison Mix, qui a été organisé l'année dernière et qui va se renouveler aussi cette année. C'est un peu cette idée-là, c'est des équipes qui vont travailler et qui ont travaillé donc pendant 3 jours sur des prototypes de dispositifs pour, je cite, « enchanter la maison connectée » l'année dernière. Et cette année, ça va être sur une thématique un peu plus large.
Enchanter la maison, enchanter la vie, c'est formidable. La suite pour vous, Flavie Ferchaud, votre thèse n'est pas encore achevée. On sait que ça prend du temps, ces petites choses-là. Vous en avez encore pour combien de temps à étudier ce monde passionnant du numérique et de la ville ?
J'aimerais bien terminer mes enquêtes pour cet été. Et puis ensuite, commencer l'analyse et la rédaction et soutenir fin 2017.
Eh bien, on vous soutiendra aussi, parce que ces travaux-là sont passionnants. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Merci Flavie Ferchaud, et on retrouve bien sûr votre contribution dans ce dernier numéro de Place Publique. Je dis dernier, Xavier de Bontride, c'est l'ultime.
C'est l'ultime. Hein.
Vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi la revue disparaît.
Alors, on l'a expliqué déjà par un communiqué diffusé fin février. On l'explique à nouveau dans ce dernier numéro 40. Tout simplement, faute de financement, la revue a été contrainte de prendre cette décision difficile que toute l'équipe a vécu avec beaucoup de tristesse, mais en même temps un sens des réalités. Nous avions pour fonctionner une subvention annuelle que nous accordait Rennes Métropole depuis l'origine de la création de la revue en 2009. Cette subvention, on a appris en tout début d'année 2016 qu'elle serait dès 2016 très fortement revue à la baisse et qu'on nous incitait fortement à trouver des partenaires privés pour pallier cette diminution annoncée. Nous n'avons pas trouvé de partenaires privés car tous ceux que nous avons approchés nous ont tenu exactement le même discours, un discours très compréhensible, un discours économique, disant qu'il n'y a pas de modèle économique pour la revue en dépit de la qualité éditoriale qu'elle représente. Il n'y a pas assez de lecteurs, il n'y a pas de publicité, c'est un marché de niche trop étroit, donc il n'y a pas de contrepartie non plus à venir vous soutenir. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit. Et donc, dans cette impossibilité de trouver les plusieurs dizaines de milliers d'euros qui allaient nous faire défaut très rapidement, et on savait que si on continuait, on aurait dégradé la qualité de la revue, on aurait sans doute un peu épuisé également les équipes qui la concevaient. Et il a donc été pris cette décision difficile de stopper l'aventure après 40 numéros.
Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 40 numéros, Xavier ?
Un mot ou une expression qu'on a beaucoup utilisée, mais je crois qu'il fait vraiment sens. On disait souvent, Place Publique, c'est l'alliance de l'expertise et du témoignage, et c'est aussi une formidable encyclopédie urbaine sur l'agglomération rennaise et Saint-Malo, qui sont les territoires auxquels on s'intéressait. Et effectivement, ça va durer, et c'est le message positif quand même, car il en faut un, que je souhaite partager avec vos auditeurs aujourd'hui, c'est que toute cette masse d'informations, alors on a fait fait le calcul, hein, on a recensé le nombre d'articles. Il y en a eu 1094 qui ont été publiés depuis le début de la revue. Il y a donc 40 numéros, je le disais. Et tout ça se retrouve sur le site internet de Place Publique, placepublique-rennes.com. On a un moteur de recherche sur ce site qui permet d'accéder à l'intégralité des contenus, vraiment de manière très fine, de pouvoir faire des croisements, identifier à la fois des auteurs, des thématiques, des lieux, des périodes aussi historiques. Bref, tout ça, ça va rester et je pense que c'est important que ça puisse durer de cette manière. Vive le numérique.
Et des croisements, il y en a eu hein, dans cette revue entre des journalistes, des chercheurs.
On a mélangé les genres, effectivement. Il y a eu des rencontres assez improbables. Et la preuve, Christian Lebart, qui faisait partie du comité de rédaction, le montre bien aussi hein, dans cette alliance parfois un peu surprenante.
Un commentaire, Christian, sur cette disparition.
Je veux bien dire un mot. Je m'exprime évidemment à titre personnel, mais je sais qu'un très grand nombre de collègues universitaires pensent la même chose que moi. Il y a une très grande amertume, une très grande tristesse hein, de voir que cette revue s'arrête. Tout simplement parce qu'elle était assez exemplaire sur un terrain qui nous est cher, c'est celui de la valorisation des travaux des chercheurs, c'est celui du dialogue avec la société dans son ensemble, sur des questions qui peuvent être des questions à l'agenda du moment, mais qui sont aussi des questions de mise en perspective de l'actualité par des regards historiques, anthropologiques, sociologiques, etc. Bon, c'est ce qu'on essaie de faire ici dans cette émission. J'espère qu'on aura le plaisir, Xavier, de continuer à le faire.
Au moins jusqu'au mois de juin, c'est promis.
Bon, voilà une bonne nouvelle. Et pour le reste, effectivement, l'encyclopédie urbaine, c'est vraiment ça avec moi, c'est ça que je retiens, vraiment le projet de faire dialoguer les gens autour des objets, autour des savoirs.
Le rendez-vous est donc donné le mois prochain. Merci messieurs et merci à vous, Flavie Ferchaud.
Merci à tous. Merci.